Alors, cet antimoine, donc, s'administre généralement sous forme de vin d'antimoine. Alors, le vin d'antimoine a l'avantage de purger par le haut et par le bas. Mais sans violence, dit-on. Mais il existe une autre forme d'administration qui, elle, ne purge pas par le haut, mais purge seulement par le bas. C'est la pilule de régule d'antimoine, qu'on qualifie de pilule perpétuelle, parce que naturellement, après usage, on peut la récupérer dans les selles et la réutiliser pendant un assez grand nombre de fois. Alors, on va rechercher un petit peu ce qu'est cette pilule d'antimoine pour les contemporains. Et comme on est à Nancy, on va commencer par s'intéresser à l'opinion de Thibault, dit le Lorrain, qui est l'auteur d'un cours de chimie dont vous avez ici la première édition, qui date de 1667, et où on va décrire la préparation et l'usage de la pilule d'antimoine. Alors, il faut du matériel pour ça, c'est pas si simple. Pour faire les pilules éternelles, oui, il ne dit pas pilule perpétuelle, lui, il dit pilule éternelle, c'est encore mieux. Donc, pour faire les pilules éternelles, il faut tenir prêt un moule à balles de plomb, donc à balles, de plusieurs grosseurs, pourvu qu'elles ne soient ni trop grosses, ni trop petites, mais environ comme des balles de pistolet qui reviennent à la grosseur ordinaire des pilules. Alors, le moule doit être lutté. Alors, vous lutterez de notre lutte. Notre lutte, ça veut dire du lutte que j'ai décrit quelques pages auparavant. Hein. Donc, vous lutterez de notre lutte le bas et les autres jointures du dit moule, afin que la liqueur fondue que vous y verserez par l'embouchure d'en haut, y étant retenue, se puisse bien figurer et mouler en figure de balle ou pilule. Donc, on va boucher tout ce qui pourrait éventuellement occasionner une perte du liquide en fusion. La matière première, c'est le régule d'antimoine, c'est-à-dire l'antimoine métallique. Puis vous prendrez tant qu'il vous le plaira du dit régule et le mettrez dans une cuillère de fer ayant un petit bec. Mettez cette cuillère sur une cuvette au fourneau du grand feu de roue et de suppression ou au four à vent et couvrez la dite cuillère d'un tuyau qui ne soit pas humide, crainte qu'il ne vienne à se casser et à s'éclater dans l'air et par aventure de blesser quelqu'un. Alors voilà le four à vent. Donc ça, c'est tiré de la deuxième édition du cours de chimie de Thibault dit le Lorrain. Et c'est le four à vent qui doit être utilisé. Alors, il faut procéder à la fusion. Jeter du charbon sur la cuillère ainsi couvert et donner ainsi non seulement un feu de suppression totale, mais un feu de fonte jusqu'à ce que la matière soit bien fondue et toute rouge et de plus éclatante comme le mercure coulant. Donc, on fond le métal. Après, on coule. Alors, versez la dite matière doucement dans votre moule, puis retirez vos balles qui tiennent toutes l'une à l'autre. Oui, c'est un moule pour faire plusieurs pilules, donc plusieurs balles. Donc il y a des petites parties métalliques qui relient les différentes balles qu'on a fabriquées, et donc il faut ensuite procéder à l'ébarbage. Séparez-les avec un couteau et les arrondissez parfaitement en séparant toute leur inégalité qui pourrait blesser la gorge, l'ésophage, le ventricule, les noyaux et le siège. Alors, maintenant on en vient à l'administration et à la fameuse récupération. Une de ces pilules peut servir à purger à jamais, la retirant des selles, la lavant et la redonnant toujours à d'autres maladies. Alors c'est malade qu'il faut dire. car une seule pilule d'une drachme pour des personnes adultes a même vertu que sa dose ordinaire de vin émétique et opère tout autant que si vous faisiez prendre plusieurs desdites pilules à la fois. Là, c'est une remarque qu'on va retrouver chez tous les auteurs. Alors, maintenant, il est évident que c'est une pilule réutilisable. Mais est-ce qu'on peut vraiment la qualifier de perpétuelle? Alors, perpétuelle a deux significations. La première définition, c'est qu'il ne connaît ni fin ni interruption, qui ne cesse jamais. Donc, c'est une définition absolue. Et puis, vous avez une définition plus relative, qui dure sans interruption pendant une période longue et dont la fin n'est pas déterminée. Et ça se dit en particulier de ce que dure la vie d'un homme. C'est comme ça qu'on parle du secrétaire perpétuel de l'Académie. N'en déplaise à Agnès. Alors, voyons un peu ce que nous en dit Nicolas Lemery. Alors, Nicolas Lemery s'exprime dans plusieurs ouvrages différents à propos de l'antimoine. Premier ouvrage, son cours de chimie. Alors là, ce qui est pris, c'est dans le cours de chimie de 1687, édition de 1687. À propos du régule d'antimoine, il n'y a pas une rubrique spéciale, pilule d'antimoine, mais à propos du régule d'antimoine, il va donner la définition suivante. Si on le fait refondre et qu'on le forme en balle de la grosseur d'une pilule, on aura la pilule perpétuelle, c'est-à-dire qu'étant prise et rendue 50 fois, aura purgé à chaque fois, et à peine est-il sensible qu'elle soit diminuée. Alors, remarquez la formulation, à peine est-il sensible qu'elle soit diminuée, qui introduit déjà une petite ambiguïté. La dernière phrase montre donc discrètement une nouvelle piste. Alors, il va nous expliquer l'activité purgative. Lorsqu'on avale la pilule perpétuelle, elle est entraînée par sa pesanteur et elle purge par le bas. On la lave et on la redonne comme devant et ainsi perpétuellement. Et cependant, Lemery est un chimiste et il insiste sur la diminution de poids qu'il a constatée. Presque tous les chimistes ont écrit qu'elle ne diminuait aucunement de son poids, quoiqu'elle eût été prise plusieurs fois. Il est bien vrai que la diminution est très petite, mais néanmoins, il ne serait pas difficile de le faire remarquer. Et il tente d'expliquer cette diminution de poids. On peut dire encore qu'en place des parties sulfureuses qui en sortent pour faire le vomissement, il s'y introduit quelques corps étrangers, de même qu'il arrive quand on calcine l'antimoine au soleil. Et il constate que cette légère diminution de poids provoque expérimentalement une disparition de l'activité. Quand cette pilule a été prise et rendue 20 ou 30 fois, elle ne purge plus tant, parce que les parties de soufre les plus dissolubles s'en étant détachées, ce qui reste passe sans faire de grands effets. Donc il y a une usure de la chose. Alors maintenant, qu'en dit-il dans sa pharmacopée universelle? Là, c'est la pharmacopée universelle de 1697 que je vais vous citer, c'est-à-dire la première édition. Alors il y a une rubrique qui s'appelle « Pilulae perpetuae » et il écrit « Elles évacuent les humeurs par les selles, elles chassent et tuent les vers, elles lèvent les obstructions des intestins, la dose est une pilule qu'on avale le matin et qu'on rend, après qu'elle a fait son effet, en la même forme et la même dureté qu'elle était auparavant. On peut la reprendre après l'avoir bien lavée, elle purgera comme auparavant, après l'avoir bien lavée quand même. » Et elle agira toujours de même autant de fois qu'on l'aura fait avaler, d'où vient qu'on l'appelle pilule perpétuelle. Alors, encore une fois, il va se pencher sur l'absence d'effet vomitif. Quoique le régule d'antimoine soit hémétique, la pilule perpétuelle, qui en est formée, ne purge que par le bas, à cause de la pesanteur, car elle est en peu de temps déterminée à passer dans les intestins, où elle excite sa fermentation de purgatif. Donc elle ne reste pas assez longtemps au niveau de l'estomac pour provoquer le vomissement. Alors il revient sur cette affaire de perte de poids. Après que la pilule perpétuelle a été prise et rendue 80 ou 100 fois, et qu'elle a produit à chaque fois son effet purgatif, il ne paraît guère qu'elle ait diminué de poids, ce qui a fait dire à quelques chimistes que l'antimoine ne produisait ses effets que par une irradiation qui ne dépendait point de la matière. Alors, à l'appui de cela, il va dire que si on prend des pilules d'argent, eh bien ça n'a pas le même effet. Donc, il y a le même effet de pesanteur, mais il n'y a pas le même effet. Donc, c'est pas ça la vraie cause. Alors, il répond à cela, donc, une explication si relevée ne satisfera guère un physicien. Il vaut mieux dire qu'à la place de ce qui est sorti de la balle de régule, il est entré d'autres corpuscules qui ont suppléé à la pesanteur. Alors, naturellement, là où il en va en parler le plus longuement, c'est dans son traité de l'antimoine qu'il publie en 1707 et qui, exception parmi la production de l'Emery, ne connaîtra qu'une seule édition en français. Il sera traduit à l'étranger, mais une seule édition. Alors, il rappelle la préparation, mais lui, au lieu d'utiliser un moule pour faire plusieurs balles à la fois, il utilise un moule qui ne fait qu'une balle. On forme dans des moules du régule d'antimoine en petites balles, lesquelles on appelle pilules perpétuelles, parce qu'elles ont la figure et la grosseur de pilules ordinaires. Donc vous avez ici deux des moules qu'on peut voir, celui-ci dans l'édition 1696 du cours de chimie, et celui-ci dans l'édition de 1687 du cours de chimie. Donc, ce sont des moules à une balle. Donc, ils feront une seule pilule. Alors, il rappelle les conditions d'utilisation. Étant petites et rendues par le bas et bien lavées, elles sont en état d'être prises de rechef et de purger comme auparavant, ce qu'on peut continuer ou réitérer une infinité de fois sans qu'elles paraissent avoir en rien diminué de volume. Alors, il parle encore de l'action vomitive qui est supprimée. On n'en prend d'ordinaire qu'une à chaque fois, et il est remarquable qu'encore que le régule soit vomitif dans toute sa substance, la balle ne purge que par le bas, avec douceur, sans exciter aucun vomissement. Alors, il explique la douceur de cette activité. La raison en est qu'à cause de sa pesanteur, elle ne séjourne point assez dans l'estomac pour qu'il s'en puisse détacher à cette partie sulfureuse et saline qui est en picote et irrite les fibres. Elle se précipite dans les intestins où, étant arrêtée en quelque façon à cause des circonvolutions, elle a plus de le temps d'y produire son effet purgatif, mais elle ne purge pas abondamment parce qu'elle y demeure encore trop peu pour pénétrer et dissoudre beaucoup d'humeur. Et alors cette affaire de la dose unique, deux balles de régule prises l'une immédiatement après l'autre ne donneraient guère plus de purgation qu'une seule, parce que la première étant poussée par la seconde, elle se précipiterait avec trop de vigueur et elle ne pourrait pas demeurer assez longtemps dans les intestins pour y communiquer leur vertu purgative. Une suffit. Alors il souligne le caractère perpétuel, au reste, il n'y a pas de purgatif qui soit en état de faire un plus grand progrès que celui-ci, car une seule balle de régule d'antimoine, passant d'une famille à l'autre, serait capable de procurer sa vertu évacuante à plusieurs générations. Alors, il signale quand même que ce caractère perpétuel présente des limites. Quoique la balle ait été prise et rendue un grand nombre de fois, paraissent n'avoir diminué ni en volume ni en poids, J'ai pourtant aperçu une légère diminution de sa pesanteur, et je crois qu'il s'en est fait une plus grande, mais quand la place des parties sulfureuses et salines qui en sont sorties et qui ont fait des purgations, il s'y est introduit des corps étrangers, ce qui m'a confirmé dans ce sentiment est que la balle a que quand la balle a servi 30 fois, elle ne purge plus tant qu'elle le faisait. Alors il y a tout de même un moyen de récupérer la pilule d'antimoine pour s'en resservir. Après 30 passages, on remédiait cet accident en la limant doucement tout autour pour en emporter seulement la superficie dans laquelle il s'était apparemment attaché quelques crasses. Elle devient ensuite aussi purgative qu'au commencement. Donc on peut réutiliser quand même. Alors, il est intéressant de voir ce qu'un clinicien estime de cette pilule perpétuelle. C'est Guillaume Lamy qui publie sa dissertation sur l'antimoine en 1682. Lui aussi pense qu'il y a une diminution de substance, mais cela ne repose pas sur une pesée, comme chez l'Emery. Cela repose sur une argumentation de clinicien. Il ne faut pourtant pas s'imaginer qu'elle ne perdra rien de sa substance, car autrement elle n'agirait pas, puisqu'il n'y a jamais d'action sans mouvement, et que la pilule de Régule n'a d'autre mouvement que celui de sa pesanteur, qui ne suffit pas à purger. Alors qu'en est-il quelques années plus tard, en 1715, Antoine Dédier va publier sa chimie raisonnée. On fait encore avec le régule d'antimoine les pilules perpétuelles en jetant le régule en fusion dans des moules ordinaires où l'on fait les balles de plomb. On les appelle pilules perpétuelles parce qu'on peut s'en servir fort longtemps sans qu'elles perdent leur vertu purgative. Elles semblent ne rien diminuer de leur poids, soit parce que quelques parties des ferments digestifs se mêlant avec les pilules réparent la perte des parties qui s'en sont séparées, soit parce que les particules qu'elles perdent ne sont pas capables de faire aucune diminution de poids sensible. On remarque que ces pilules, quoique composées de régules hémétiques, ne purgent que par le bas, parce que leur poids les entraînant dans les intestins, elles ne restent pas assez longtemps dans l'estomac pour produire le vomissement qui ne manque pas d'arriver lorsqu'on avale la poudre de ces mêmes pilules. Donc tout ça est extrêmement proche de ce que déclarait Nicolas Lemery auparavant. Alors, le régule d'antimoine réduit en poudre présente plusieurs surfaces à la matière chileuse et par là il fermente tout à coup de la manière qu'il faut pour produire le vomissement, ce que les pilules perpétuelles ne pourraient faire quand même elle sert toujours, journerait longtemps dans l'estomac. Donc ça c'est une autre idée, c'est la division du régule d'antimoine qui provoque l'activité, et le fait que la pilule soit dense empêche cela, la surface est trop faible. C'est une idée nouvelle. Alors on arrive en 1734 ici, avec Paul-Jacques Malouin qui publie son traité de chimie, et on commence à l'époque à abandonner l'usage de la pilule perpétuelle. Je ne parle point des pilules conformes du régule d'antimoine, on ne peut trop en blâmer l'usage, elles sont surtout pernicieuses à ceux qui ont des hernies intestinales. Donc voilà une remarque, scepticisme qui se déclare maintenant. Et alors l'encyclopédie est encore plus méchante à l'égard des pilules perpétuelles. À l'article régule d'antimoine, elle dit « Il sert aussi à composer des balles qu'on nomme pilules perpétuelles. Les pilules perpétuelles sont pernicieuses. » C'est tout. Alors on avance dans le temps et on arrive à Bouchardat, dans son manuel de matière médicale. Et il a une rubrique d'antimoine métallique, et il va parler au passé des pilules d'antimoine. Autrefois, on employait en médecine l'antimoine métallique, on faisait de petites balles que l'on avalait et que l'on rendait par les selles à peu près telles qu'on les avait prises. Elles pouvaient ainsi servir un grand nombre de fois, on les nommait pilules perpétuelles. C'est au passé. Mais il va signaler une autre utilisation de l'antimoine, nouvelle. Il signale une nouvelle indication de l'antimoine métallique, mais lui ne parle pas de la forme pilule. Monsieur Trousseau a fait des expériences curieuses sur l'emploi de l'antimoine métallique réduit en poudre fine par la porphyrisation. Il l'a administré pour combattre la pneumonie et le rhumatisme articulaire. Donc, c'est éphémère, cela. Si on lit l'officine de Dorvaux de 1850, il a une rubrique antimoine et il va se montrer très proche de Bouchardat. Pendant longtemps, on forma avec lui de petites balles que les malades avalaient pour se purger, et comme ces balles étaient rendues à peu près intactes, et qu'elles servaient indéfiniment, et qu'elles se transmettaient, pour ainsi dire, en héritage de famille, on les avait appelées pilules perpétuelles. Donc, toujours au passé. Mais il signale la nouvelle indication éphémère de la pilule d'antimoine. Dans ces derniers temps, M. Trousseau a tenté de remettre l'antimoine métallique en vogue. Il l'a employé pour combattre la pneumonie et le rhumatisme articulaire. En portant la dose jusqu'à 4 grammes, il l'administrait en pilule ou en poudre très fine suspendue dans un loc. On va regarder maintenant ce que disent Soubéran et Regnault en 1887. En 1855, Soubéran utilisait à peu près les mêmes termes que Bouchardat. Mais en 1887, Soubéran et Regnault écrivent que l'antimoine métallique a été jadis administré à l'intérieur. En ce temps, on faisait avaler, dit la légende, de petites balles d'antimoine qui, rendues dans les selles, pouvaient être utilisées indéfiniment. Nos aïeux avaient trouvé, pour ce remède économique, le nom significatif de pilule perpétuelle. Donc c'est vraiment du passé. Peut-être même de la légende. Alors ils vont aussi signaler cette tentative éphémère de Trousseau. L'antimoine métallique n'est plus utilisé en médecine. Cependant, Trousseau l'a prescrit quelquefois à haute dose, 4 grammes, dans le traitement de la pneumonie et du rhumatisme articulaire aigu. Il l'a administré tantôt sous forme de pilule, tantôt à l'état de suspension dans un loc ou dans un musilage. Mais là aussi, c'est le passé. Donc le caractère de la pilule perpétuelle, c'était vraiment du passé. Alors, ce caractère perpétuel se révèle finalement abusif de deux façons différentes. Tout d'abord, elle n'est pas inerte et diminue de poids au cours de son utilisation. Donc, en attendant suffisamment longtemps, elle ne sera pas perpétuelle. Et puis, son emploi en thérapeutique, lui, est loin d'avoir été perpétuel, puisqu'il n'a été en fait qu'éphémère. Voilà.